Chapitre 7. Quand j'avais 9 ans, je suis tombée amoureuse d'un mug. Il était en vente près de mon école primaire dans un petit magasin où j'allais parfois dépenser mon argent en pain au chocolat et bonbons après la classe. Ce mug était rose avec un motif de fleurs, de papillons et un petit chaton à rayures orange peint à la main. Toute une série de noms était proposée. Je voulais Annabelle. Il coûtait $3,99, environ 2 semaines de pain au chocolat. Le sacrifice ne me parut pas démesuré. Il me fallut ensuite attendre encore une insoutenable semaine, jusqu'au jeudi où ma mère m'annonça qu'elle avait des courses à faire et qu'elle serait peut-être en retard à la sortie de l'école. Je passais la journée sur des charbons ardents, pratiquement incapable de me concentrer, telle une guerrière sur le point de partir pour sa première mission. 2h35, la sonnerie de l'école retentit. Les enfants qui ne prenaient pas le car se rassemblèrent devant le bâtiment en briques, comme des bouquets de fleurs. Je fréquentais cette école depuis 6 mois. Je n'appartenais à aucun des groupes, de sorte que lorsque je m'éclipsais, personne n'y prêta attention. C'était avant qu'on doive signer un registre à l'arrivée et à la sortie des enfants, avant que des parents volontaires ne montent la garde après la classe, avant les alertes enlèvements. À l'époque, seul mon père semblait obsédé par tout ce qui pouvait arriver à une petite fille. Dans le magasin, je pris précautionneusement le mug. L'emportai à deux mains jusqu'à la caisse. Comptai $3,99 en petite monnaie, manipulant maladroitement les pièces dans ma hâte. La vendeuse, une dame d'un certain âge, me demanda si je m'appelais Annabelle. L'espace d'un instant, je restai sans voix. Je faillis m'enfuir du magasin. Je ne pouvais pas être Annabelle. Il était très important que je ne sois pas Annabelle. Mon père me l'avait dit et redit. « Pour une amie, » réussis-je finalement à murmurer. La femme me sourit avec bonté et enveloppa mon butin sous des couches de papier d'emballage. Sortie du magasin, je rangeai le mug dans mon sac à dos à côté de mes livres de classe et regagnai la cour de l'école. Une minute plus tard, ma mère arriva dans notre nouveau break d'occasion, l'arrière chargé de provisions. Elle tapotait distraitement le volant du bout des doigts. Je fus submergée par un atroce sentiment de culpabilité. J'étais persuadée qu'elle voyait à travers le tissu bleu de mon sac à dos. Elle regardait mon mug. Elle savait exactement ce que j'avais fait. Au lieu de cela, elle me demanda comment s'était passée ma journée. « Bien, » répondis-je, en grimpant sur la banquette avant à côté d'elle. Elle ne regarda pas dans mon sac. Elle ne posa pas de questions sur le mug. Elle nous conduisit simplement à la maison. Je conservais le mug rose caché sous une pile de vêtements trop petits sur l'étagère du haut de mon placard. Je le descendais le soir, quand mes parents me croyaient endormi. Je le prenais dans mon lit, et caché sous les couvertures, j'admirais son lustre rose nacré à la lueur d'une lampe de poche. Je suivais du bout des doigts les coups de pinceau en relief des fleurs, des papillons, du chaton. Mais surtout, je traçais le nom, encore et encore. Annabelle. Je m'appelle Annabelle. Environ 6 semaines plus tard, ma mère le découvrit. C'était un samedi. Mon père travaillait. Je crois que j'étais en train de regarder des dessins animés dans le séjour. Ma mère décida de faire un peu de rangement et descendit la pile de vêtements pour les changer à la friperie où nous achetions la plupart de nos affaires. Elle ne cria pas, ne hurla pas. En fait, je crois que c'est le silence qui finit par m'alerter, le silence absolu comparé au bruit de fond habituel de ma mère qui menait sa petite vie dans le minuscule appartement, pliait du linge, entrechoquait des casseroles, ouvrait et fermait des placards. Je venais de me relever de la moquette à longues mèches dorées quand elle se présenta à la porte, mon trésor à la main. Elle avait l'air abasourdie, mais calme. « Est-ce que quelqu'un t'a donné ça ?» me demanda-t-elle posément. Sans un mot, le cœur battant dans la poitrine, je secouais la tête. « Alors comment tu l'as eu ?» Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux en racontant mon histoire, alors je grattais la moquette du bout des pieds.
« Je l'ai vue. Je l'ai trouvée jolie. »«
Tu l'as volée ?» Nouvelle dénégation furtive.
« J'ai économisé mon argent des pains au chocolat. »
« Oh, Annabelle. » Elle mit brusquement sa main devant sa bouche. Pour me montrer qu'elle était atterrée, horrifiée même, ou pour dissimuler ce péché impardonnable d'avoir prononcé mon nom. Je n'étais pas sûre, mais ensuite elle me tendit les bras et je courus vers elle et m'accrochai éperdument à sa taille. Je fondis moi-même en larmes, tellement c'était bon d'entendre ma mère dire mon vrai nom. Cela m'avait manqué de l'entendre de sa bouche. Mon père rentra. Il nous surprit blottis comme des conspiratrices dans le salon, ma mère toujours le mug à la main. Sa réaction fut immédiate et fracassante. Il lui arracha le récipient en céramique rose et le secoua en l'air. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » vociféra-t-il.
« Je ne voulais pas.
C'est un inconnu qui t'a donné ça ?»«
Non. »«
C'est elle qui te l'a donné ? » dit-il en montrant ma mère du doigt, comme si elle était en quelque sorte pire qu'un inconnu.
« Non. »
« Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu crois que c'est un jeu ? Tu crois que c'est pour jouer que j'ai renoncé à mon poste au MIT et qu'on vit dans ce minable trou-à-rats ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Je ne pouvais plus parler. Je ne faisais que le regarder, les joues en feu, les yeux hagards, consciente d'être prise au piège, cherchant désespérément une échappatoire. Il s'en prit à ma mère. « Tu étais au courant ?»«
Je viens moi-même de le découvrir. » répondit-elle calmement en posant une main sur son bras comme pour l'apaiser.
« Russe, Al, je m'appelle Al !» cria-t-il en repoussant sa main. « Bon Dieu, tu es pratiquement aussi nul qu'elle. Bien, je sais quoi faire pour que ça s'arrête. »
Il entra à pas lourds dans la cuisine, ouvrit d'un coup sec le tiroir sous le téléphone et en sortit un marteau.
« Sophia, » dit-il avec autorité en me regardant. « Viens là. »
Il me fit asseoir à la table de cuisine, posa le mug devant moi, me tendit le marteau.
« Allez !»
Je secouai la tête.
« Allez !»
Nouveau refus.
« Russe !» plaida ma mère. « Bon sang, Sophia, tu ne quitteras pas cette table tant que tu n'auras pas cassé ce mug. Tant pis si ça dure toute la nuit. Tu vas prendre ce marteau. »
Ça n'a pas duré toute la nuit. Seulement jusqu'à 3 heures du matin. Quand je me suis finalement exécutée, je n'ai pas pleuré. J'ai pris le marteau à deux mains, étudié ma cible et asséné le coup fatal avec une telle violence que j'ai emporté un morceau de la table. Le problème entre mon père et moi n'a jamais été que nous étions trop différents, mais que déjà à l'époque, nous nous ressemblions trop. Quand on est enfant, on a besoin que ses parents soient tout-puissants, qu'ils soient ces figures d'autorité qui nous protégeront toujours. Plus tard, à l'adolescence, on a besoin que ses parents aient des défauts parce que ça paraît le seul moyen de nous construire, de couper le cordon. Aujourd'hui, à 32 ans, j'ai surtout besoin que mon père ait été fou. Cette idée est née avec sa mort prématurée. Alors qu'il avait été constamment à l'affût des pédophiles, violeurs, tueurs en série potentiels, il semblait remarquable qu'il n'ait en fin de compte pas été victime d'un monstre, mais d'un chauffeur de taxi surmené et à l'anglais limité, qui échappa au procès en menaçant à son tour de poursuivre la municipalité pour avoir mal signalé la déviation liée au chantier de l'autoroute souterraine, créant ainsi les conditions de ce terrible accident et provoquant bien sûr chez lui un mal de dos invalidant qui allait définitivement lui interdire de travailler. Je commençais à me demander si toute sa vie, mon père ne s'était pas trompé sur ce qu'il aurait dû craindre, et de là à se demander s'il avait eu quoi que ce soit à craindre, il n'y avait qu'un pas. Et s'il n'y avait jamais eu de monstre dans le placard ? Pas de détraqué sexuel meurtrier qui guettait le bon moment pour s'emparer de la petite Annabelle Granger dans la rue ? Les scientifiques sont connus pour leur esprit brillant, hypersensible, les mathématiciens en particulier. Et si tout cela n'avait jamais existé que dans la tête de mon père ? En réalité, quand je repensais à toutes ces années passées sur les routes, je n'avais jamais rien remarqué qui sorte de l'ordinaire. Je ne m'étais jamais senti épié par un inconnu, je n'avais jamais vu de voiture ralentir pour que le conducteur puisse mieux regarder. Je ne m'étais jamais, au grand jamais, senti menacé, et pourtant j'y pensais, croyez-moi. J'y pensais chaque fois que je rentrais et que je trouvais nos 5 valises faites et entassées près de la porte. Quel était le problème cette fois-ci ? Quel péché avais-je commis ? Je n'ai jamais eu de réponse. Mon père avait mené une guerre sans réserve, forcenée, obsessionnelle. Ma mère et moi n'étions là qu'en spectatrices. Je m'en étonne encore, tandis que j'emprunte un nouveau métro bondé, plein de menaces potentielles, et que je ressors néanmoins saine et sauve à destination. Tandis que je gravis les escaliers vers la nuit qui s'assombrit rapidement,
que je tourne à gauche et me dirige une fois de plus vers mon petit appartement du North End. Je marche d'un pas vif et assuré, le menton bien haut, les épaules bien droites. Mais ce n'est pas seulement pour signaler mes capacités à de possibles agresseurs. Je suis réellement heureuse de rentrer chez moi. Je suis impatiente de voir ma chienne Bella, et je sais qu'après avoir passé toute la journée seule entre quatre murs, elle aussi est impatiente de me voir. On va sans doute aller faire un petit jogging sur les quais, même si la nuit est tombée et que la ville grouille de criminels. On courra très vite. J'emporterai un taser, mais on va y aller. Parce qu'on aime toutes les deux courir, et puis quoi? Je suis en vie. Et je suis jeune, et je n'en peux plus de ne pas faire de projet. Je veux développer ma boîte, un de ces quatre, peut-être prendre deux ou trois assistantes et louer un vrai local. Plus que pour la couture, j'ai un don pour la couleur et l'aménagement. J'ai envisagé de prendre des cours d'architecture intérieure, de me bâtir un petit empire à la Martha Stewart. Parfois, j'imagine que je rencontre l'âme sœur. Je fréquente la petite église de quartier au coin de la rue. Je m'y suis fait quelques vagues connaissances. De temps à autre, j'essaie de sortir avec quelqu'un. Peut-être que je vais tomber amoureuse, me marier. Peut-être qu'un jour j'aurai un bébé. On s'installera en banlieue. Je planterai des dizaines de rosiers et je peindrai des fresques dans toutes les pièces. Je ne permettrai jamais à mon mari d'acheter des valises. Il prendra ça pour une charmante excentricité. J'aurai une fille. Dans mes rêves, c'est toujours une fille, jamais un fils. Je l'appellerai Leslie Anne et je lui achèterai des dizaines de mugs en céramique à son nom. Je songe à tout cela en arrivant à mon immeuble, coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite. Pas d'inconnu tapis dans l'ombre, puis je sors la clé de l'immeuble d'entre mes doigts serrés et j'ouvre la vieille et robuste porte en bois. Des lumières vives illuminent le petit sas, dont le mur de gauche est garni d'une rangée de fines boîtes aux lettres en cuivre. Je referme la porte de la rue en m'assurant que le loquet s'enclenche bien derrière moi. Je prends mon courrier. Facture, prospectus, chic le chèque d'une cliente. Puis je regarde par la porte vitrée intérieure pour m'assurer que le vestibule est désert. Personne à l'horizon. J'entre dans le vestibule et commence à gravir cinq étages d'un escalier étroit et grinçant. J'entends déjà Bella là-haut, qui a senti que j'arrivais et qui gémit d'excitation devant la porte. Il n'y a qu'un seul problème avec mes fantasmes, me dis-je. Dans mes rêves, personne ne m'appelle jamais Tania. Dans mes rêves, l'homme que j'aime m'appelle Annabelle.